un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Elle s'appelle la famille Beauté, c'est son vrai nom. Elle achète il y a une dizaine d'années une maison à retaper en Normandie, au bord de la Seine. Pour une raison que l'histoire ne dit pas, il vient rapidement à l'esprit d'Isabelle, Thibault et de leurs deux filles qu'il y aurait dans la grange de cette maison un trésor caché. Chaque fois qu'il creuse un trou, raconte le père dans un article du Parisien, ou qu'il enlève une pierre, ses filles et sa femme s'attendent à le trouver. Il faut dire que Thibault est cadre dans la fonction territoriale et maire de ce village de 700 habitants. Peut-être sait-il des choses que d'autres ignorent sur l'histoire des lieux. Vite débordée par l'ampleur des travaux, la famille Beauté finit par faire appel à une entreprise de bâtiment. Trois ouvriers sont dépêchés pour le gros œuvre. Le chantier dure 2 mois et demi, les trois jeunes sont sympathiques, ils se relaient. 2 ans plus tard, c'est par un coup de fil de la police que la famille Beauté apprend qu'il y avait bien dans leur grange un fabuleux trésor contenant 600 pièces d'or et 16 lingots d'or et que l'ensemble a une valeur d'environ 900 000 euros, quasiment 1 million. Sauf que d'or ou d'argent, la famille Beauté n'en voit pas la couleur car les trois ouvriers ayant découvert le magot il y a 2 ans auparavant l'ont partagé équitablement sur les bords de la Seine et ont pris les voiles. L'un s'est acheté une grosse voiture et l'autre une grosse voiture aussi. Le troisième a déposé sur son compte en banque un chèque de 270 000 euros qui a mis la puce à l'oreille des policiers. S'ils avaient officiellement déclaré leur découverte, les trois sympathiques garçons en auraient gardé la moitié en toute légalité. Au lieu de quoi, ils ont fini par être arrêtés et ont comparu pour recel. Rien ne dit que l'histoire, donc, finira en beauté. Tout de suite, dans Les Pieds sur Terre, ce sont 3 autres histoires de trésors, de chasse au trésor et d'aventuriers d'un autre siècle avec des dénouements étonnants. Et ce sont des récits signés Jérôme Sanglard.
Allô, Serge Bininati, j'écoute. Oui.
Serge Bininati a une cinquantaine d'années, de grands yeux clairs, des cheveux blonds et longs, et un collier qui lui donne un air de pirate.
Ce que j'ai autour du cou, ce sont des perles de corail rouge que j'ai trouvées sur un étal d'une vieille brocante. Et les dents qui sont autour sont des crocs de sanglier, en fait. Puisqu'on m'appelle Lug le sanglier. Lug parce que c'était le dieu celte des poètes. Et le sanglier, parce qu'à mon grand âme, il paraît que je suis un petit peu brute dans mes mouvements. Hein. Quand je suis dans les bois, on dirait un sanglier. Quoi. Je vais tout droit, je ne tourne pas. S'il y a des ronces, ça ne me gêne pas.
Il voulait devenir légionnaire ou gendarme, mais ça n'a pas marché. Du coup, il a exercé toutes sortes de métiers. Camelot, agent de sécurité, ambulancier et même journaliste freelance. Depuis quelques années, il s'est spécialisé dans la recherche de trésors. Détecteur de métaux en main, il accompagne des gens qui sont persuadés que leur maison ou leur jardin cache un butin quelque part. Il me donne rendez-vous chez lui, entre mer et montagne, dans la vallée des Paillons, non loin de Nice.
Un jour, je reçois un coup de téléphone. Monsieur Bininati, bonjour, monsieur Pierre Laborde. Je vous téléphone parce que j'ai trouvé vos coordonnées sur le net. Il semblerait que vous recherchiez des trésors. Dites-moi, est-ce que vous pouvez, avec votre matériel, nous retrouver un souterrain ? Un souterrain ? Oui, c'est rare qu'on nous demande de trouver un souterrain. Bon, on se doute bien que si on doit chercher un souterrain, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Bon, et puis ça, tout part de là. C'est un monsieur qui habitait donc dans la région Aquitaine, dans les Landes plus exactement. Et il y avait une légende dans sa famille qui durait depuis 3 générations, puisqu'il était dit que son arrière-grand-père avait certainement trouvé ou caché un trésor. Pour situer son histoire, c'est un ancien de 14-18 qui rentre de la guerre. Il est démobilisé. C'est un ouvrier agricole sans le sou. Et il revient de la guerre. Et quelques temps après, quelques mois après, paf, il achète un domaine. Il achète un aérial landais. Il achète des terres avoisinantes. Et donc, tout le monde s'est posé la question, comment se fait-il que l'arrière-grand-père, du jour au lendemain, avait les moyens d'acheter tout ça? Donc, tout le monde a supposé, légitimement, que l'arrière-grand-père avait trouvé un trésor. Donc j'accepte la mission, Et on prépare donc notre future mission avec mon coéquipier Jérôme, que j'appelle de suite après avoir accroché avec Monsieur Laborde. Ouais, Jérôme, c'est bon, on a une nouvelle affaire. Est-ce que tu viens avec moi? Ouais, je pose mes jours, je viens, t'inquiète pas, je m'arrange avec mes clients, je m'arrange. Parce que Jérôme, il est prof de golf. Et il arrive enfin le jour J où on va partir avec Jérôme. Et là, c'est vraiment l'aventure qui commence.
C'est bon, les pioches, c'est bon, détecteur radar.
Je regarde si tout va bien, si j'ai la pioche, la pelle, le radar de sol, le détecteur, les piles, parce que souvent on tombe en rade à cause des piles.
Tout y est, c'est tout bon. Allez. Et on y va, c'est parti pour l'aventure.
50 km me séparent de chez Jérôme, donc je vais chercher Jérôme. On entame notre périple qui nous fait rouler 9 heures de route, 820 bornes.
Continuez 2 km 600, puis prenez le rond-point.
On arrive à peu près entre 15h et 16h sur place. Monsieur Laborde est là, il nous attend, il saute de son tracteur quand il nous voit. Bonjour messieurs, vous avez fait bon voyage? Ben ouais, on a fait bon voyage, ça va. Ben rentrez, venez vous désaltérer. Le personnage est très sympathique, il est très gai. Et là, d'un coup, il s'arrête. Bon, allez les gars, on y va le chercher, ce trésor. Donc on suit. Là, devant moi, il y a 5-6 chaînes. Des terres qui s'alternent entre culture, vigne, mais c'est à perte de vue. Une grande maison, avec plein de dépendances. Mais tout est attenant, en fait. C'est vraiment une bâtisse, vraiment comme si on rentre dans un petit château fort, quoi. Et là, malgré tout, je me dis, waouh, il y a du travail, c'est grand, et il va falloir vraiment qu'on mette une stratégie au point avec Jérôme, parce que là, on ne pourra pas s'en sortir comme ça en 3 jours, en fait, de travail. Et donc, j'ai dit à Jérôme, écoute, toi, tu te prends la grange à gauche, et je vais m'attaquer à la cour centrale. Donc Jérôme part tout guilleré avec son détecteur, et il commence à chercher de son côté. Moi, je monte mon radar et je commence à chercher du mien avec le radar de sol. Mais bon, il s'écoule bien 1h30. Rien. T'as rien trouvé, mais t'as tout fait. Ouais. Et à ce moment-là, où on se dit, bon, ben, y a rien, on continuera plus tard. Pof! Une image qui sature mon écran radar. Alors, monsieur Laborde qui arrive en gros. Ouais, vous avez trouvé. J'ai dit, non, attendez. On ne s'excite pas trop. J'ai dit, on va y aller mollo. Effectivement, il y a quelque chose, mais maintenant, c'est parce que il faut creuser. Ah oh ben les gars, allez, je vous donne un coup de main, et puis il va chercher sa pioche, il revient avec la pioche. Monsieur Laborde, j'ai bientôt 20h, peut-être qu'on fera ça demain. Et là, monsieur Laborde, ok, d'accord les gars, ben écoutez, on se voit demain matin à 7h. Alors là, 5h30, le réveil qui sonne, on se lève. Et voilà qu'on part, on prend la voiture, 20 minutes de route pour aller jusqu'à là-bas, et là encore une fois, on échafaude plein de plans, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va trouver et tout. Et on arrive sur le terre-plein, on se gare, et là, la surprise générale. On voit Monsieur Laborde avec une mini-pelle, un truc, un genre de petit tractopelle, quoi, prêt à défoncer toute sa terrasse, presque. Oh les gars, j'ai une pelle, on va pouvoir creuser. Bon, quelque part, on était bien contents parce qu'on se sentait pas réellement à 7h du matin d'y aller à coups de pioche et de pelle, quoi. Et il attaque, il faisait un coup, et deux coups, trois coups, il y a une dizaine de coups de pelle. Paf, on commence à voir un petit peu le sol, enfin le sous-sol, comment il apparaît. Et hop, on arrive sur les 1 mètre. Effectivement, il y a quelque chose. Mais en fait, on s'aperçoit bien vite que c'est que de la ferraille, quoi. C'est tout des cerclages de tonneaux. Voilà, ça a été notre première grosse déception. On se sépare une nouvelle fois avec un peu plus de vigueur. Et puis il passe peut-être, allez, 1 heure, même pas. D'un coup, j'entends Jérôme, « Ah, putain, SR, je l'ai trouvé !» Je pose tout, je pars en courant vers Jérôme. Et là, je le vois qui creuse avec ses petites mains. « Regarde, Serge, il y a plein de monnaie. » Et d'un coup, paf, « Oh, Serge, regarde !» Et là, il me sort un chiffon tout pourri, enfin bouffé par la terre, avec des bijoux à l'intérieur. Tout le monde, « Waouh !» Je pointe ma lampe sur le chiffon que me tendait Jérôme. On l'ouvre tout délicatement. Effectivement, ben c'est vrai, il y avait des bijoux. Ouais. Des bijoux, mais des bijoux de pacotille, quoi. Ils étaient beaux, ça brillait, il y avait des pierres, mais c'était tout du plastique, quoi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, bon, ben, le moral en prend un coup. Hein, on se dit, putain, ça fait 2 jours qu'on est là, 2 jours qu'on cherche. Et puis bon, ben, on avait fait toutes les dépendances, hein, on avait fait le poulailler, on avait fait la porcherie. Il n'y avait rien. Donc, il ne nous restait plus que la maison vide.
Mais d'où elle vous vient, cette passion, Serge, pour la recherche de trésors, de biens familiaux?
Ça remonte à très très loin. C'est quand j'étais tout petit, hein, j'étais vraiment gamin, quoi. J'allais au primaire, donc vers les 5 ans et demi, 6 ans. Hein. Et tous les matins, avant que j'aille à l'école, je mettais sur le rebord de ma fenêtre et je regardais un monsieur qui s'appelait Salah, c'était un harki, qui ramassait les poubelles pour la ville de Bandol, en fait. Et tous les matins, je voyais Salah arriver avec un sourire immense et il fouillait les poubelles. Et j'ai demandé à mon père de m'expliquer, quoi. Et mon père m'a expliqué qu'en fait, Salah, en faisant les poubelles, récupérait ce que la plupart des gens jetaient, qui rafistolait et qui revendait. Et qu'il y avait donc dans les poubelles des trésors. Voilà, et tout a commencé de là. Et donc voilà, j'ai passé mon enfance à chercher, jusqu'au jour où je me balade sur la plage de Rennecro à Bandol. C'est une jolie petite anse, une petite crique que j'affectionne particulièrement. Et je vois un gars bizarre, habillé un petit peu militaire, avec une drôle de machine, et je le vois qui balaye le sable, quoi. Il balaye, il se baisse, il ramasse, il se balaye, il baisse, il ramasse. Et en fait, moi, j'ai compris que c'était un détecteur de métaux. C'était le premier que je voyais. J'avais donc peut-être 10 ans, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, mais fausse machine. Voilà. Et la première que j'ai pu m'acheter, je devais avoir 20 ans. Et depuis donc 30 ans, ben, je m'adonne à ce loisir que j'ai pu transformer en un petit peu en professionnel, quoi. Donc, on fait les 5 chambres, on fait la cuisine, on fait le cellier, on fait le débarras, une petite cave, un petit réduit qui était sur le côté. Et puis, en fait, il nous reste plus qu'une chambre. Et cette chambre, c'est celle que M. Laborde appelle la chambre noire. C'est parce qu'en fait, dans leur famille, ils ont pour tradition que lorsque les gens sont en train de partir pour le grand voyage, ben, ils vont décéder dans cette chambre-là. Donc, Jérôme me dit, ben Serge, toi t'attaques les murs. J'ai dit, ok, ben toi t'attaqueras le plancher. Puis sur le mur de droite, en plein milieu, pof, ça sonne. Je prends mon petit détecteur exprès pour les murs. Pof, ça confirme. Alors, Monsieur Laborde commence à écarquiller les yeux. Ben, c'est peut-être là qu'il y a le trésor et tout. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben creusez. Je défais le petit mur en torchis. Et là, je sors, c'est une petite boule de journaux, pliée, enfin froissée, enfoncée au fond du mur. Et je l'attends de suite à M. Laborde pour lui laisser la primeur de la découverte, quoi. J'ai dit, ben, à vous l'honneur. Le papier se défroisse, plorc, plorf. Et là, M. Laborde s'arrête. Il nous tend la chose, les mains bien ouvertes, posées sur le creux de ses mains, deux dentiers. Deux dentiers avec deux dents en or. Alors là, on ne sait plus. On ne sait plus si on doit rire, si on doit pleurer, on ne sait plus, quoi. Mais ça nous amène donc à penser que si, effectivement, il a caché quelque chose dans le mur, il y a vraiment une chance, quelque part, qu'un trésor soit caché, soit planqué, quoi. Et là, M. Laborde nous dit, mais les gars, et le chez ? Le chez, on l'avait oublié totalement. Hop, on reprend nos machines et on part dans le chez. Donc, on rallume notre matériel. Moi, je commence avec le radar de sol. Rien. Rien, mais vraiment rien de rien, quoi. L'ambiance commence à être un petit peu pesante. Il y avait plein de poussière. On ne voyait pas grand-chose. Je demande à M. Laborde, s'il vous plaît, nous ouvrir les gros portails, là, parce qu'on fasse rentrer un peu de lumière. On suffoque, quoi. Il ouvre le portail, il acquiesce. La lumière se fait. Et au moment où on croit que tout est fini, bon, un son, un joli son, bien beau, bien aigu. En plus, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est dans un coin qui était dans le sombre, en fait. Et dans ce coin-là, il y avait une grosse cheminée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on appelle Monsieur Laborde. Ah, venez voir. Ouais, il grommelle un petit peu, parce que je crois que vraiment, franchement, je crois qu'il en avait vraiment très très marre. Et on lui dit, voilà, il y a deux sons là, qui sont très bons. Est-ce que vous nous autorisez à creuser ? J'y passe. Comme on est vraiment dans le coin du pied droit, ça peut-être déstabiliser la cheminée. Monsieur Laborde nous donne l'autorisation et on creuse. Donc on commence à piocher un petit peu. Et puis on enlève 10 cm, 15 cm de terre. Et là, il apparaît un petit morceau de ferraille, quoi. Un petit truc. Franchement, ça ressemble bien à une anse. Et on évase. Pof. Et là, sincèrement, on commence à croire au Graal. Et donc on évase encore plus le trou et on creuse. Et au fur et à mesure qu'on creuse, qu'on nettoie, ouais, effectivement, c'est une boîte. Alors on la sort de terre. Et on pose l'écrin là par terre devant nous. On est tous les trois vraiment prêts à plonger dans la boîte, quoi. On fait sauter le couvercle. Chla, qui se pète. Et qu'est-ce qu'on a devant nous ? Trois bouteilles de vin. Là, franchement, là, on sait plus. J'en sors une autre. Et on s'aperçoit que les trois bouteilles, en fait, elles étaient posées sur un lit de papier journaux, quoi. Et là, les papiers journaux, ils nous rappellent quoi ? Ils nous rappellent les papiers journaux qui avaient entouré les deux dentiers. Donc on se dit, on y est. Hein. On retire le papier journal. Et l'espoir laisse place à l'euphorie. On l'a trouvé. On a trouvé, tiens, regardez. Vous voyez ça ? C'est l'aisance d'un vieux porte-monnaie. Il était dans la boîte avec un autre porte-monnaie. Bon, le cuir, le tissu était bouffé par le temps, bouffé par je ne sais quoi. Et en fait, il y avait des monnaies, il y en avait des blanches, il y en avait des jaunes, c'est-à-dire qu'il y avait des monnaies d'argent, il y avait des monnaies en or. On en a comptabilisé à peu près 180. Et donc, on a ramassé les pièces, on les a mis de côté. Monsieur Laborde était hyper content. Il a bien fait d'y croire, on a bien fait de se déplacer, parce que franchement, à mon souvenir de toutes nos expériences, c'est la plus belle que j'ai eue. Mais le souvenir le plus émouvant, ça a été le moment où Monsieur Laborde a pris la boîte vide, il a tout dépoussiéré avec ses mains, et il a versé quelques larmes, parce qu'en fait, sur la boîte, il y avait écrit « Georges Laborde, 1924 ». Et en fait, il tenait cette boîte, c'était la boîte de son arrière-grand-père. Donc je crois que pour lui, le véritable trésor, il était là, quoi.
Culture, les pieds sur terre.
Donc ici, on se trouve sur l'ancienne voie de chemin de fer, l'Arpajonnais. Donc maintenant, c'est devenu un chemin pédestre. Donc on va se stationner. On va enfiler les bottes. On va allumer le détecteur et on est parti pour une petite balade.
Je retrouve Gaël dans un champ. Il aime la nature et rêvait de devenir garde forestier. Maintenant, il est fonctionnaire de police. C'est pour ça qu'on l'appelle Petit Poulet, dans le milieu très fermé des chercheurs de trésors. À l'inverse de Serge, qui cherche les trésors comme un métier, lui fait ça comme on va à la pêche à la truite ou à la chasse aux champignons. S'il accompagne des gens, il demande quand même sa part du magot.
Donc j'ai été contacté il y a peu de temps par une dame âgée, on va dire entre 80 et 85 ans, qui m'a dit... Écoutez, je pense que l'arrière-arrière-grand-père avait caché quelque chose à l'intérieur de cette maison. J'ai demandé à la dame un petit peu l'histoire de la maison, s'il y avait eu de la résistance, s'il y avait quelqu'un de sa famille qui avait eu des titres, comte ou duc. M'a dit non, que c'était une maison de riches agriculteurs. Donc j'ai sympathisé un petit peu avec cette dame. Et donc je lui ai dit, écoutez, si vous voulez, on peut faire un contrat. si je trouve quelque chose, je prends 30% et vous, ça vous fait 70%. Donc, une fois signé, j'ai bien précisé à cette dame, leur rend fou. Elle m'a dit non, non, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci. Donc, je me suis muni de mon détecteur et je suis parti chercher. J'ai fait plusieurs parties de la maison. Donc, au bout d'à peu près 2h30, j'avais toujours rien trouvé. Je commençais un petit peu à désespérer. Puis au bout d'à peu près, 4h30 de détection, j'ai dit à la dame, faut que je remonte dans la pièce de votre ancêtre pour voir. Je suis à la fenêtre, j'ai re-regardé la configuration, j'ai vu un arbre qui est perpendiculaire à un autre. Et si on regarde par rapport à la fontaine, ça fait un triangle. Donc j'ai dit, on va chercher au milieu de ce triangle, voir s'il y a quelque chose. J'y étais, il y avait bien un son au milieu, quelque chose près du triangle. Moi, c'était une vieille monnaie, c'était un 10 centimes Napoléon. J'ai continué, et là, elle m'a dit, il y avait les ruines là-bas du poulailler. Ah, j'ai dit, je pense que dans le poulailler, il y a peut-être bien quelque chose. Donc on arrive au poulailler, et là je dis, mais c'est une ruine, je dis, mais il n'y a rien ici, je dis, c'est qu'un tas de pierres, je dis, en plus pour rentrer dedans, je dis, il y a plein de ronces et tout, elle me dit, mais vous inquiétez pas, je vais vous aider, on va enlever un petit peu les ronces, on va tout nettoyer. Donc j'ai rallumé mon détecteur, je suis reparti en quête de mon soi-disant trésor, et au bout d'une petite demi-heure, j'ai vu une pointe plantée à l'intérieur de ce mur. C'est obligé, il y a quelque chose. Et là, elle a visualisé cette pointe, elle avait les yeux qui pétillaient, et là, un son qui crachetait dans le détecteur. J'ai dit, il faut creuser, même si ça crachette, il faut creuser. Je creuse, et là, je repasse le détecteur, et là, un son, mais net de chez net, avec un bon indice conducteur qui me dit, tu te trompes pas, il y a le pactole. Et là, la dame était folle, elle avait le sourire, elle dit, il faut que j'appelle mes petits-enfants, tout. J'ai dit, attendez, d'abord, on sort ce qu'il y a, et après, on verra. J'ai sorti la boîte, il y avait un petit cadenas, j'ai pris un marteau, j'ai tapé sur le cadenas, j'ai ouvert, et là, émerveillé, il y avait des louis d'or et des napoléons à l'intérieur. C'était l'extase, c'était un moment magique. J'ai été le plus heureux de tous les chercheurs de trésors, j'étais un vrai gamin. Comme si le Père Noël m'avait apporté un cadeau et que je l'avais. Il y avait 273 louis d'or et Napoléon confondus, de toute époque et de tout atelier. Ça représente à peu près 50 000 euros. Donc on a refermé la boîte, je lui dis, écoutez, on va faire le partage. Et là, elle me dit, tu remballes ton détecteur, tu me donnes la boîte et tu te casses. Et là, je suis resté bouche bée, j'ai gardé mon calme et je lui ai dit, attendez, on a signé un contrat. Et là, elle me dit, votre contrat, vous pouvez vous le mettre où je pense. Et là, je dis, mais attendez. Elle m'a dit, non, vous partez. Moi, je ne vous dois rien du tout. Vous n'êtes pas venu. Moi, j'ai mon or. Maintenant, vous dégagez. J'ai gardé mon calme. J'ai pris la boîte, le contrat. Je suis sorti dehors. Quart d'heure, 20 minutes se sont passées. J'ai fumé une petite cigarette. Je me suis dit, bon, comment que ça va se passer? Et puis, la porte s'est rouverte. Ma petite mamie est ressortie, toute calme, posée, et elle m'a dit, vous aviez raison, quand vous m'avez dit que l'or rendait fou. Elle m'a dit, ça m'a rendu folle de voir tout cet or, de me dire qu'il allait falloir que je partage cet or avec vous, et je suis vraiment désolé, je m'excuse. Elle a dit, maintenant on va faire ça dans les règles. Et nous avons fait le partage, on s'est serré la main, on s'est fait la bise, et je croise cette dame de temps en temps. Et elle se souviendra, je pense, toute sa vie comme moi, de l'expérience qu'elle aura vécue avec la chasse au trésor dans sa propriété.
Alors quand vous êtes reparti de chez la mamie, donc avec 30%, c'est ça, du butin?
C'est ça.
30% des 50 000 euros, qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent?
J'ai toujours des exemplaires de Napoléon. Et pour la petite curiosité, je vais vous avouer, je me suis fait plaisir, je me suis acheté une petite voiture, voilà, que j'ai toujours aujourd'hui. Quand on fait de la prospection, on est amené à faire des SOS objets perdus. Et en l'occurrence, petite histoire croustillante, il y a 2 ans maintenant, 1 an et demi, 2 ans, j'ai été contacté par une demoiselle qui avait perdu des boucles d'oreilles, soi-disant en or ou en platine, chez elle, dans le 16e arrondissement. Donc je me suis rendu sur place. Donc, demoiselle qui m'a ouvert était habillée très succinctement, avec une robe, un décolleté plongeant, une petite brune, une vingtaine d'années. Donc elle m'a dit, bah, mon frère a jeté mes boucles d'oreilles depuis la fenêtre du deuxième étage. Je me suis dit, bah, écoutez, on va regarder si on les trouve. Donc après 2 heures de recherche, j'ai trouvé les 2 boucles d'oreilles. Donc on est remonté chez elle, je me suis lavé les mains. Donc elle m'a demandé si je voulais boire quelque chose. Donc oui, j'ai bu un verre de jus d'orange. Et en buvant le jus d'orange, cette personne m'a dit « Mais tu vas rester avec moi, on peut passer la soirée ensemble. » Commencer à se frotter après moi. Et là, je lui ai dit « Bon, ben, bonne soirée, je suis parti. » 2-3 jours plus tard, un pote m'appelle, il me dit « Apparemment, t'as été chez la gonzesse, mais t'as pas trouvé les boucles d'oreilles. » Je dis « Attends, tu rigoles ou quoi ?» Je dis « J'ai les photos sur mon portable. » Mais entre-temps, un pote à moi, Karim, va sur place. Il lui dit, voilà, ben, je viens chercher les boucles d'oreilles et tout. Il dit, ouais, c'est un guignol, votre copain et tout. Il a rien retrouvé et tout. Donc, il recherche un petit peu. Jusqu'au moment où la demoiselle eh ben, a commencé à se frotter à lui aussi. Ben, c'était bel et bien une nymphomane, en fait, qui a dû jeter ses boucles d'oreilles par la fenêtre pour que quelqu'un les cherche. Elle devait avoir un fantasme sur des chercheurs de trésors. Et c'était bien comique.
My heart's treasure, darling, is you. Please believe me, darling, it's true. You're so precious. My heart wants to hide. My good fortune deep down inside.
C'était Chasse au trésor, un reportage de Jérôme Sandla réalisé par Perret Legras avec un coup de main d'Anne-Laure Chanel. Cette émission a été diffusée pour la première fois en 2014. Notre attachée de production, c'est Céline Paris, et notre stagiaire, c'est Rita Ruggirello. Cannot compare.
My heart's treasure will always be the love that you gave to me. My heart's treasure will always be the love that you gave to me.